Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, la police a affirmé dimanche qu'un homme a été tué par balle samedi à Portland, dans l'Oregon, dans des circonstances confuses pendant une soirée de heurts entre des manifestants antiracistes de Black Lives Matter et des partisans du président Donald Trump. L'homme décédé portait, dit-on, une casquette Patriot Prayer, un groupe local d'extrême droite actif contre les manifestations antiracistes qui se déroulent à Portland depuis 3 mois, c'est-à-dire depuis la mort de George Floyd en mai dernier dans le Minnesota. Ce mouvement, qui a été émaillé d'actes de violence, a été ravivé par le cas de Jacob Blake, un autre Africain-Américain grièvement blessé par balle par un autre policier blanc à Kenosha, dans le Wisconsin. Le président Trump a réagi à la situation à Portland par des dizaines de tweets et retweets dimanche matin, critiquant l'action du maire démocrate de la ville, Ted Wheeler, et son refus d'appeler la garde nationale, et plus généralement dénonçant ce qu'il considère être le laxisme des villes gérées par les démocrates face à la délinquance et à la violence, la police étant une responsabilité locale aux États-Unis. Notre grande garde nationale pourrait résoudre ces problèmes en moins d'une heure, a affirmé M. Trump. Il doit se rendre mardi à Kenosha, où un jeune homme de 17 ans est accusé d'avoir tué 2 personnes par balle dans les émeutes qui ont suivi les tirs sur Jacob Blake. Pour sa part, son rival démocrate, Joe Biden, a accusé M. Trump d'encourager la violence, ce que dément catégoriquement le camp présidentiel. M. Biden doit prononcer un discours ce lundi. Coronavirus, plus de 25 millions de cas ont été officiellement recensés dans le monde. Selon un comptage de l'AFP dimanche, près de 4 cas sur 10 se situent aux États-Unis et au Brésil. Le rythme de la pandémie dans le monde semble se stabiliser, avec 1 million de cas supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis la mi-juillet. L'Inde a annoncé dimanche avoir recensé 78 761 nouveaux cas en 24 heures, soit un nouveau record mondial. Les États-Unis frôlent, eux, les 6 millions de cas, selon l'université Johns Hopkins. Au Mali, le mouvement de premier plan qui a mobilisé contre le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta propose aux militaires une transition allant jusqu'à 2 ans. Ce sera dans un instant. Au Congo, retour à Brazzaville de l'opposant et prisonnier Jean-Marie Michel Mokoko après des soins en Turquie. Nous y reviendrons également. L'armée égyptienne a annoncé dimanche avoir tué plus de 70 militants islamistes présumés ces dernières semaines dans des opérations militaires dans le nord du Sinaï, où sévit une insurrection localement affiliée au groupe État islamique. Au cours de ces affrontements, 3 officiers et 4 soldats ont été tués ou blessés, indique par ailleurs l'armée, sans donner de précision. Les représentants du gouvernement soudanais et du Front révolutionnaire soudanais, qui regroupe 4 mouvements de guérilla, ont paraphé l'accord visant à mettre fin à 17 ans de guerre civile, a indiqué dimanche l'agence de presse officielle Sunna. La signature officielle de l'accord est prévue ce lundi à Djouba, capitale du Soudan du Sud. Au Liban, le président Michel Aoun s'est prononcé dimanche pour un changement du système politique du Liban et pour la proclamation d'un État laïque. Quelques heures plus tôt, le chef du puissant mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, Hassan Nasrallah, allié de M. Aoun, avait déclaré être prêt à discuter d'un nouveau pacte politique pour le pays où les communautés religieuses se partagent le pouvoir. Au Bélarus, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à Minsk pour le 3e week-end consécutif contre la réélection du président Alexander Loukachenko, les forces de l'ordre. La suite de nos informations, l'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko, qui purge une peine de 20 ans de prison, est rentré dimanche à Brazzaville après un mois de soins en Turquie, a indiqué son avocat. Le point avec Nathalie Barge.
À sa rentrée de Turquie, Jean-Marie Mokoko a été conduit à l'hôpital militaire de Brazzaville, a déclaré maître Yvon Ebouanga, le disant en forme. Au terme de son contrôle à l'hôpital, M. Mokoko doit regagner sa cellule à la maison d'arrêt. Son avocat va formuler une demande de libération dans quelques jours. Les autorités avaient autorisé le 30 juillet l'évacuation par avion médicalisé du général Mokoko à Ankara. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, M. Mokoko, qui avait contesté la réélection de Denis Sassou Nguesso, a été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État en 2018. Il avait été admis à l'hôpital militaire de Brazzaville le 2 juillet pour fatigue générale. Le président Sassou Nguesso avait estimé qu'il n'y avait pas de raison de le libérer en période de coronavirus.
Au Mali, le mouvement qui a mobilisé contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, avant qu'il ne soit renversé par des militaires le 18 août, a proposé à la junte au pouvoir une transition de 18 à 24 mois. Michel Joseph.
Les militaires ont reçu les représentants du mouvement du M5-RFP samedi soir après que ceux-ci les eurent accusés de les tenir à l'écart de la future transition censée conduire à un retour des civils au pouvoir. Le M5 propose une transition de 18 à 24 mois avec des civils à la tête d'une présidence, d'un gouvernement et d'une assemblée de transition selon l'un de ses dirigeants, Choguel Maïga. Il propose par ailleurs un comité de suivi et de surveillance de la transition qui sera majoritairement composé de membres de la junte et du M5. La CDAO réclame une transition d'un an maximum dirigée par un civil. La ministre française des armées, Florence Parly, dont le pays est un partenaire essentiel du Mali dans la lutte anti-djihadiste, a déclaré dimanche que la transition devait être une affaire de mois.
Au moins 10 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements la semaine dernière entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad, a indiqué dimanche le parquet local. De nouveau, Nathalie Barge.
Des éleveurs avaient perdu une vache jeudi dans la province du Logone occidental et l'ont localisée sur la propriété d'un cultivateur, a expliqué Ibrahim Ali Kola, procureur du tribunal de grande instance de Moundou. Les éleveurs ont dépêché l'un des leurs pour réclamer l'animal, mais les cultivateurs l'ont tué à l'issue d'une dispute, selon le magistrat. Lors de son enterrement, les cultivateurs ont attaqué les éleveurs présents à la cérémonie, indique M. Kola. Selon lui, toutes les victimes sont des membres d'une communauté d'éleveurs arabes. 43 personnes ont été arrêtées, dont 2 chefs de canton et 4 chefs de village. Les combats entre communautés sont fréquents dans le sud du Tchad. Ils opposent principalement éleveurs nomades arabes et cultivateurs autochtones sédentaires.
Israël discute en secret avec des dirigeants arabes et musulmans d'une normalisation de leurs relations, a soutenu dimanche le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la veille du premier vol commercial direct entre l'État hébreu et les Émirats arabes unis après leur récent accord. De nouveau, Michel Joseph.
Depuis l'annonce le 13 août par Washington de la normalisation de leurs relations, Israël et les Émirats ont signé des premiers contrats commerciaux. Abu Dhabi a abrogé samedi une loi de 1972 qui consacrait le boycott de l'État hébreu. De son côté, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, lors d'une tournée au Moyen-Orient la semaine dernière, a tenté de convaincre d'autres pays de suivre l'exemple émirati. Benjamin Netanyahou s'était quant à lui déjà entretenu ces derniers mois avec des dirigeants du Soudan, du Tchad et d'Oman. Ce sont là les rencontres connues, mais il y a beaucoup plus de rencontres non médiatisées avec des leaders arabes et musulmans, a-t-il déclaré dimanche aux côtés de Jared Kushner, conseiller à la Maison-Blanche et du conseiller présidentiel à la Sécurité nationale, Robert O'Brien.
La Minute Éco, John Linden.
Un peu plus de 741,2 milliards de francs CFA, c'est le montant du déficit qu'affiche le solde budgétaire du Sénégal pour la période allant jusqu'à fin juin 2020 contre un déficit de 469 milliards de francs CFA à la même période de l'année 2019. C'est du moins ce qu'indiquent les données établies par la Direction de la prévision et des études économiques basées à Dakar. Le rapport Doing Business 2021 publié par la Banque mondiale et qui devait paraître en octobre 2020 a été provisoirement suspendu pour cause d'irrégularité dans les données visant à favoriser certains pays. Une enquête a été ouverte sur les dernières éditions de ce rapport très attendu. Selon le Wall Street Journal, certains pays ont usé de moyens illégaux pour bénéficier d'une meilleure place dans le classement. Il s'agit notamment de la Chine, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Azerbaïdjan. Aucun des pays africains n'est concerné par ces irrégularités. L'Angola envisage de rejoindre l'initiative pour la transparence des industries extractives créée en 2003. Et comptant plus de 50 pays membres, il s'agit d'un effort international visant à lutter contre la corruption des revenus provenant de l'extraction de pétrole, de gaz et de minéraux. L'annonce de la possible entrée a été faite sur Twitter par Tété Antonio, le ministre angolais des Affaires étrangères.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Cyclisme au Mali, le championnat en titre Yaya Diallo garde son trophée. C'était au cours du championnat national édition 2020.
Oui, une compétition qui s'est déroulée à Niéna dans la région de Sikasso, à 300 km au sud de Bamako. Notre correspondant Siaka Traoré était présent.
Yaya Diallo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait en face 82 cyclistes de 14 équipes de divers horizons du Mali. Âgé de 23 ans, Yaya Diallo fait partie de l'équipe d'Ernest. La compétence a donc fait la différence. Amadou Togola, président de la Fédération malienne de cyclisme.
Le champion sortant s'est reconfirmé avec un chrono de 12 minutes 46 sur 10 km. Et le deuxième va se retrouver à plus de 14. Ça veut dire que franchement, c'est la vraie valeur des cyclistes que nous avons reçus. Et surtout galvanisé par ce public charmant qui est là. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. La mobilisation a été à la hauteur de l'événement.
Selon le champion du Mali 2020 en cyclisme, un championnat se prépare, Yaya Diallo.
En matière de cyclisme, beaucoup d'éléments rentrent en ligne de compte. Mais demander si j'ai pratiqué des entraînements spéciaux, cela ne se dit pas en public. Chacun a sa façon de faire. Si tu dis tous tes secrets, les gens sauront que faire pour t'arracher la victoire. Les entraînements ne sont pas les mêmes. Des entraînements pour une compétition comme celle-là sont différents des autres.
Un championnat national de cyclisme à Niéna n'est que justice. C'est une localité qui regorge le plus grand nombre de cyclistes du Mali. Une des raisons d'ailleurs qui justifie la première délocalisation du championnat national à l'intérieur du pays. La zone est même qualifiée comme étant la capitale du cyclisme du Mali. En d'autres termes, le vélo fait partie de la culture de Niéna. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Football en Algérie, la fédération a rendu public le classement final de la Ligue 1. Arrêté pour cause coronavirus.
Tout à fait, et c'est suite à la décision du tribunal arbitral du sport basé à Lausanne en Suisse d'annuler la défalcation des 3 points à l'USM Alger. La Ligue de football professionnel a donc procédé à la modification du classement général. Elle a appliqué pour cela la règle d'indice de performance des points récoltés et des matchs disputés. Ainsi, le CR Belouizdad est désigné champion avec comme dauphin le MC Alger.
Pendant ce temps au Cameroun, la fédération a finalement reporté la reprise du championnat prévue pour le 26 septembre.
C'est à l'issue d'une rencontre avec les responsables du club que l'instance qui gère le foot au Cameroun a pris cette décision en raison des mesures contre le coronavirus. D'après Alim Konaté, président du comité de gestion du championnat, la fédération reste encore dans l'attente de l'assouplissement des restrictions. Ainsi, les acteurs de football vont devoir encore patienter. Le football est à l'arrêt dans le pays depuis mars. En juin dernier, la FECA Foot annonçait la fin de la saison et a sacré le PWD Babenda champion.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sibilia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les militaires qui ont pris le pouvoir ont publié au journal officiel un document permettant au colonel Assimi Goïta, numéro 1 de la junte, d'assurer les fonctions de chef d'État avant la mise en place de la charte de la transition. Déjà, les consultations ont débuté pour la mise en place des mécanismes de la transition. La CEDEAO, qui suit la situation au Mali, a allégé ses sanctions et souhaite une transition d'un an avec un président et un premier ministre, tous deux civils. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
À la surprise générale des Maliens, l'acte fondamental du Comité national pour le salut du peuple a été publié au journal officiel et permet au président du comité militaire, le colonel Assimi Goïta, d'assurer la fonction de chef d'État. Colonel Ismaël Ouagé, porte-parole du Comité national pour le salut du peuple.
La mise en place de cet acte fondamental permet la création juridique de ce comité ainsi que son organisation. Il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a rien d'autre. Maintenant, pour assurer la continuité de l'État, il faut qu'il y ait un chef d'État. Donc ce texte permet de prendre le président du Conseil national comme le chef d'État, qui lui permet d'assurer la continuité de l'État et préparer les transitions.
Lors de la cérémonie de prière sur les victimes des événements de juillet dernier, l'imam Mahmoud Diko a demandé aux militaires de respecter leurs paroles.
On ne donnera à personne un chèque en blanc. Je salue nos enfants, les héros qui ont achevé la révolution, mais je leur demande de tenir parole, de tenir parole. Mais cette situation de course en solitaire là, qu'ils nous facilitent eux-mêmes la tâche. Ils doivent être des solutions et non d'être des problèmes encore.
Les militaires avaient convié les partis, les organisations de la société civile et d'anciens groupes rebelles à des premiers échanges le samedi dernier. Cette rencontre a été reportée parce qu'ils n'avaient pas invité en tant que tel le mouvement du 5 juin. La mise en écart du M5 a provoqué la colère de ses leaders. C'est tard dans la nuit du samedi dernier que les militaires ont réussi à Kati, une délégation du M5-RFP conduite par Shogel Kokala Maïga.
Les positions du M5-RFP sont connues depuis des mois. C'est autour de ces positions que le peuple a été mobilisé. Les positions du CNSP ont été brièvement énoncées dans leur première déclaration où il a été dit qu'il y aura une transition politique civile. Je vous avais dit il y a quelques jours que le M5-RFP a élaboré un document sur la transition. Notre souhait, c'est qu'il y ait une articulation harmonieuse entre les positions du M5-RFP et celles du CNSP.
Lors de cette rencontre, le M5-RFP a proposé aux militaires une transition de 18 à 24 mois avec des civils à la tête des institutions de la transition. Mais avant, les chefs d'État de la CEDEAO avaient organisé une visioconférence sur la situation au Mali. Mahamadou Issoufou, président du Niger et présent en exercice de la CEDEAO.
Nomination d'un président de la transition. Cette personnalité civile, reconnue pour ses qualités professionnelles et sa probité intellectuelle et morale, sera chargée de diriger la transition. Le président de la transition ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. 2. Nomination d'un premier ministre civil, chef de gouvernement, reconnu pour ses qualités professionnelles et sa probité intellectuelle et morale, ne sera chargé de conduire le gouvernement sous la responsabilité du président de la transition. Ce premier ministre ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle.
La CEDEAO appelle à la finalisation urgente d'un accord sur la transition politique entre elle et le Mali et invite l'Union africaine, les Nations unies, à endosser cet accord. Le constitutionnaliste malien Mamadou Tissoko voit la transition malienne autrement.
En amont déjà, il y a un organe qui est déjà là, qui a pris le pouvoir. Et cet organe maintenant doit s'élargir et choisir les membres. Ils sont en train de consulter. Et ensuite, ils vont choisir les membres qui vont venir compléter les militaires dans un organe législatif suprême qui va diriger l'État. Et en ce moment, ils vont prendre la décision de suspendre cette constitution qui ne permet pas leur existence. Et ensuite, en ce moment maintenant, il y aura un gouvernement provisoire sous l'autorité du CNSP maintenant.
Pour une meilleure organisation de la transition, le Comité national pour le salut du peuple continue ses consultations. Il s'est rendu chez les familles fondatrices avant d'aller prendre conseil auprès de l'ancien président de la République du Mali, le général Moussa Traoré. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Désespoir et désarroi des familles de migrants camerounais portés disparus, une ONG locale dirigée par un ancien migrant assiste désormais ces familles qui recherchent les leurs, parfois victimes de la traite ou de trafic humain. Grâce aux témoignages recueillis auprès de quelques anciens migrants rentrés volontairement au pays, on commence à en savoir un peu plus sur cette affaire de migrants camerounais portés disparus sur la route vers l'Europe. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
L'enfant est né en 1987. Probablement, l'enfant doit avoir 33 ans.
Sous une voix pesante, la mine triste, le sexagénaire Albert Kwawa raconte les 5 années difficiles que traverse sa famille de 9 personnes.
Tous les jours, je ne fais que prier pour dire que mon enfant fasse signe. Je n'entends pas sa voix.
L'un des enfants de la famille Kwawa est porté disparu sur la route de la migration vers l'Europe. C'est en 2015 que le jeune Arnaud Kwawa, dit Frenzo, a donné de ses nouvelles pour la dernière fois, témoigne son père.
Le 15 mai 2015, l'enfant m'a appelé vers 8h du matin. Il me dit, papa, envoie-moi un peu d'argent. On m'a pris tout en route, je n'ai plus rien sur moi. Il me dit qu'il est au niveau de Niger. Je dis, vous partez quand? Il me dit que nous partons ce soir.
Plus d'une centaine de familles camerounaises ont déjà déclaré la disparition de leurs auprès de l'association Au Pays Migrant Human, une ONG locale qui propose des solutions réelles aux causes des migrations clandestines.
Tant qu'on n'aura pas une solution, on ne lâchera pas l'affaire. Il faut être fort pour lui.
Ce jour, Cyril Nemandé, le coordonnateur de l'association Au Pays Migrant Human, rend visite à la famille d'Arnaud Kwawa. Il explique la face cachée du phénomène des Camerounais disparus sur la route des migrations pour l'Europe.
Les jeunes, lorsqu'ils partent et qu'ils ont déjà eu à demander assez d'argent à leur famille en route, après se disent, voilà, je n'ai pas à appeler pour demander comment tout le monde va parce que j'ai pris tellement d'argent. Il faudrait que la prochaine fois que je fasse cet appel, c'est pour dire, voilà, je vais envoyer telle somme. Et ils se renferment en eux et parfois ça dure des années. Bon, le deuxième aussi, c'est celui des disparitions réelles. Ça dit qu'à travers dans le désert, dans la mer, dans les prisons, les jeunes disparaissent tous les jours.
Je suis partie avec mon petit voisin. Jusqu'à présent, on n'a pas de scène.
Daniel Mengue a vécu plusieurs déconvenues sur le chemin de l'Europe. Elle a quitté le Cameroun en 2014. Pendant un an, sa famille est restée sans nouvelles d'elle.
Au niveau de la frontière Niger-Algérie, il y a un montant à payer. Je n'avais donc pas cette somme. Je me suis retrouvée en prison. Il fallait payer 150 000 francs CFA. Mon guide a trouvé quelqu'un en Camerounais, en Algérie, qui avait besoin d'une femme. Donc, il m'a vendu. On m'a envoyé chez lui. C'est la police algérienne qui a cassé la porte à 3h, arrêté tout le monde et on nous a balancé au Niger.
Aujourd'hui, promotrice d'un salon de coiffure à Douala, Daniel Mengue est rentré il y a 2 ans grâce au programme de retour volontaire et de réinsertion des migrants de l'Office international des migrations en partenariat avec l'Union européenne. La recherche des migrants camerounais portés disparus n'est pas encore une activité spécifiquement intégrée au sein de la Croix-Rouge camerounaise, confie sous anonymat à VOA Afrique un responsable. Cependant, ajoute-t-il, à travers le réseau de la Croix-Rouge dans le monde, la branche du Cameroun aide à retrouver un migrant camerounais porté disparu à condition que sa famille le déclare dans ses services. Yaoundé, Emmanuel Jolouta, VOA Afrique.
Au Tchad, les autorités médicales ont déclaré une épidémie à virus chikungunya, une infection virale transmise à l'homme par une piqûre de moustique. Présente dans le monde, en particulier en Afrique, cette maladie a fait son apparition dans la province du Wadaï, dans l'est du Tchad, au début du mois d'août, où plus de 8000 cas sont déjà confirmés. Notre correspondant André Kotmadjingar fait le point.
En plus du Covid-19 qui impacte négativement la vie socio-économique, le Tchad fait face depuis quelques jours à une autre épidémie appelée chikungunya, une maladie virale qui se transmet par une piqûre de moustique de type Aedes aegypti identifiée à l'est du Tchad. Les premiers cas ont été confirmés à Béchi dans la province du Wadaï et notifiés le 14 août aux autorités politiques de N'Djamena par les responsables du district sanitaire de la dite localité. Mais il a fallu 2 semaines plus tard pour avoir la réaction officielle du gouvernement.
Le ministère n'a pas voulu
faire des déclarations officielles pour la simple raison que, conformément au règlement sanitaire international, il fallait que les résultats obtenus par nos laboratoires soient confirmés par un contrôle qualité effectué par un laboratoire extérieur.
Abdoulaye Sabre Fadou, le ministre de la Santé publique, précisant qu'un échantillon de 5 prélèvements envoyés au centre Pasteur du Cameroun confirme qu'il s'agit bel et bien de la maladie de chikungunya qui sévit aujourd'hui dans cette partie du pays. Dr Oumaima Mohamed Jarma, médecin infectiologue à la direction de lutte contre les maladies au ministère de la Santé publique, explique au micro de VOA Afrique les signes cliniques de cette maladie.
Cliniquement, elle se présente par une forte fièvre, céphalée, mais surtout des douleurs articulaires intenses qui peuvent être très invalidantes dans certains cas, accompagnées généralement de vomissements et des éruptions cutanées pulvérineuses. Elle peut évoluer vers une phase chronique, donc ce n'est pas une maladie qui est contagieuse.
Quelques patients confirment ceci, cliniques qui racontent comment ils ont contracté la maladie.
Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle la maladie chikungunya. J'étais au boulot, j'ai senti au niveau du hanche. J'ai pris des médicaments, ça a un peu calmé. La nuit, ça m'a attaqué fortement avec le palis. J'ai appelé le médecin m'a donné l'injection. Jusqu'à maintenant, je sens mal au niveau de mes os.
Vraiment, j'étais attaqué par ces maladies. D'ailleurs, même la famille toute entière était victime. Je me suis rendu dans un cabinet de soins et puis on m'a fait traiter. Et donc, maintenant, ici, mais...
Le ministre de la Santé publique, Abdoulaye Sabre Fadoul, annonce des mesures préventives contre cette épidémie.
Nous avons dépêché une équipe dans l'objectif de renforcer la surveillance épidémiologique, la sensibilisation de la population sur les mesures préventives dans la zone d'épidémie a été renforcée. La distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée sera lancée incessamment.
Depuis l'apparition de cette épidémie dans l'est du Tchad, dont les premiers cas ont été confirmés le 14 août à ce jour, plus de 8000 cas sont notifiés dans le district sanitaire d'Abéché avec 0 décès enregistrés au moins dans les formations sanitaires. André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndiamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Niger, des milliers de personnes sont affectées par les inondations causées par les fortes précipitations. À Niamey, la capitale, le débordement des eaux du fleuve a aggravé la situation des ménages se trouvant à ses abords. Notre correspondant Abdelrazak Idrissa a rencontré certains sinistrés. Son reportage.
Habitations effondrées ou englouties sous les eaux pour celles qui ont encore résisté, de milliers d'hectares de cultures totalement ensevelies sous les eaux, des familles entières entassées dans des salles de classe, c'est le spectacle désolant qu'on observe depuis quelques jours dans les 4e et 5e arrondissements communaux de la ville de Niamey que traverse le fleuve Niger.
C'est des bagages, du matériel pendant à peu près 8 ans qu'on a refait après l'autre inondation de 2012 et aujourd'hui tout est parti dans l'eau.
Nous avons besoin d'un toit et de la nourriture. Puisque dans les écoles où nous nous trouvons, on a juste un délai de mois pour libérer les lieux.
Au quartier Bangabana, les quelques ménages qui ont jusqu'ici échappé à la furie des eaux sont désormais plus que jamais menacés.
Nous sommes ici sur une digue construite. Après les inondations de 2012, c'est des milliers et des milliers de familles qui vivent derrière cette digue. Et aujourd'hui, la digue est menacée. Les eaux sont en train de vouloir traverser la digue pour envahir nos maisons. Nous avons lancé les cris de détresse, ça fait aujourd'hui 4 jours, nous attendons. Donc si aujourd'hui l'eau arrive à traverser cette digue et envahir les quartiers, on n'aura plus, même là où caser ces milliers et des milliers de familles.
Les autorités locales disent être dépassées par les faits. Mokhtar Mamoudou, président de la délégation spéciale de la ville de Niamey.
C'est une situation difficile, c'est qui nous dépasse. C'est une situation d'un phénomène naturel exceptionnel. Bon, voilà, et nous allons gérer ça avec beaucoup de responsabilité. Nos équipes sont sur le terrain parce qu'il y a encore des zones fragiles où l'eau n'est pas encore arrivée. Donc nous assistons aussi les populations pour éviter à ce qu'il y ait des nouvelles zones inondables.
Le nombre de sinistrés a dépassé les 250 000 personnes avec 45 décès selon un bilan officiel. Sahel. Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.